When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quand vous voulez, 3, 4 et on dit bonjour, voilà. 3, non, je vais faire 3, 4, c'est toi qui fais 3, 4.
Allez, carrément.
Tu fais 3, 4.
Ok, est-ce que je vais le faire aussi bien que toi, je ne sais pas.
Ah ça.
3, 4. Bonjour. Waouh, vous avez du coffre, hein, vraiment.
Oh, oui. C'est ce qu'on m'a toujours
c'est
dit.
C'est ouf.
Plus qu'un Dacia Duster 5 portes. C'est dit.
Tu t'y connais bien en Dacia Duster, j'ai l'impression.
J'ai été hétérosexuel un jour.
J'ai appris à conduire sur une Dacia Sandero pas plus tard que samedi. Écoutez, j'ai passé la seconde.
T'as passé donc, ton permis
Non, j'ai démarré. C'était la première fois que je rentrais dans une voiture côté conducteur. Et donc, j'ai réussi non seulement à la démarrer, mais à passer la seconde. Et alors, tous mes amis me disaient mais écoute le moteur. Et je répondais mais si vous hurlez, comment je peux écouter le putain de moteur, tu vois. Donc c'était un enfer. Donc
et tous tes amis Sandero, étaient avec toi dans la Dacia Sandero.
En tout cas, deux de mes amis et mon mec étaient avec moi dans la Dacia Sandero pour un petit peu applaudir mes premiers exploits de pilote de Formule 1.
Eh bien écoute, bravo, félicitations.
Mais voilà,
cet épisode n'a pas encore commencé et on apprend déjà des choses extraordinaires.
Et oui.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans LMK, le podcast de Mademoiselle du Kiff et de la digression. Et c'est une voix totalement inconnue ou presque que vous entendez. Donc je suis très très honorée d'animer ce podcast aujourd'hui. Je suis Marie-Stéphanie Servos, je suis rédac chef de Mademoiselle. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, et je suis surtout en excellente, excellente compagnie.
Sûr.
Aujourd'hui, voilà, c'est assez nouveau pour moi, puisque c'est la première fois que j'anime ce podcast. C'est assez nouveau pour vous aussi, puisque c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette config, à savoir, à ma gauche, Kalindi.
Je m'auto-applaudis.
Bravo, Kalindi, bravo.
Bravo.
Voilà, quand même.
Merci pour moi.
Voilà. On t'a trop vu.
C'est clair, on m'a trop entendu.
À ma droite, Mathis.
Ouais. Moi, j'honore les autres.
Bravo!
Et au
c'est
milieu,
c'est quelqu'un d'autre.
En face de moi, au milieu de Mathis et Kalindi, Swafia.
Ouais,
Swafia!
La
vraie.
Merci à tous. Personne
merci à tous. Bien évidemment, il faut faire la liaison.
Évidemment.
N'est-ce pas? Swafia, t'as déjà participé plusieurs fois?
Non, plusieurs fois. C'est la quatrième fois que je suis
ici. Ah ouais,
déjà. Ouais. Fait partie des meubles.
Tout à fait.
Au même titre que ce porte-manteau qui nous a suivis et qui n'a jamais été utilisé. Je n'ai jamais rien vu sur ce porte-manteau.
C'est vrai.
Mais parce que personne n'a de manteau ici. Voilà,
c'est vrai, c'est complètement au cours.
C'est très perturbant tout ça, Mathis. Voilà. C'est vrai que... Ouais, que fait-il ici finalement, ce porte-manteau? C'est une bonne question. Alors, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à toujours nous suivre et nous écouter pendant cette heure et demie hebdomadaire de kiff. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous écrire, à nous envoyer des petits mots doux, vocaux ou pas, pour nous dire si vous nous aimez ou si vous nous aimez pas, ce que vous pensez de la Dacia Sandero ou de la Dacia Duster, pour nous parler un peu de tout ça finalement.
Podcast mécanique finalement.
Sébastien Zob.
Alors,
qui est cette personne?
Non, Sébastien Loeb, vous avez pas.
Sébastien.
Oh putain.
J'ai été hétéro avant.
Ah merde. Ah merde, ok. Oui. Je m'y attendais pas.
Mais merci Stéphanie, trop bien que tu reprennes, trop contente de cette nouvelle configuration.
Eh bien, avec plaisir, merci pour cet accueil Kalindi.
Ouais, compris.
Voilà l'intro qui dure 20 minutes, oh. Tu sais. Et donc, pour cette première émission ensemble, avant que Mathis ne meure étranglé par les câbles de son micro, j'avais envie de vous poser une question.
À tous
et à toutes.
On la connaît pas pour
qui
une fois.
Va me permettre, vous ne la connaissez pas, j'ai voulu la garder pour moi et j'utilise un max et j'avais envie d'en savoir plus sur vous. Alors c'est une question dont j'ai une partie de la réponse concernant une personne autour de cette table.
Oula, ce sera
qui ne sait pas que je parle d'elle ou de lui. Mais vous ne le savez peut-être pas, vous qui nous écoutez, mais chez Mademoiselle, nous adorons les karaokés.
Je sais du coup.
La personne que je visais s'est sentie visée. Ça a marché.
C'était pas moi.
Et donc on adore les karaokés et finalement en réfléchissant à ça, je me suis dit mais voilà quelle chanson de fin de soirée bourrée, de fin de soirée de karaoké bourrée vous êtes.
Oh, c'est une très bonne question. J'ai besoin d'une minute.
Ouais, moi aussi, il fallait que tu me la poses avant parce que là, je vais devoir réfléchir.
Moi, j'ai une réponse.
On coupera le temps de réflexion. Voilà. Oh, Mathis, c'est la rapidité.
C'est très rapide.
Oui, parce que je déteste les karaokés, donc ça permet d'aller plus vite.
Oh, moi aussi.
Et ben voilà.
C'est tellement rare.
Alors, ce n'est pas une réponse acceptée.
Voilà, je déteste le karaoké. Je l'ai dit. J'étais hétéro avant.
C'est le thème de cette émission, j'ai l'impression.
C'est le titre de cette émission. Non, écoutez, ouais, genre. J'adore chanter Michel Fugain, ça j'avoue, c'est mon péché mignon, c'est vrai.
Quelle vieille âme.
Je suis une vieille personne. Mais ce que je chanterai bourré à la fin, c'est que j'oublie, au moment où j'oublie que je n'ai aucune capacité vocale réelle, c'est toutes les chansons d'High School Musical, c'est terrible.
Ah ouais.
Parce que ça monte vraiment très très haut et c'est pas pour rien que Zac Efron a été doublé dans le premier et que c'est pas lui qui a chanté ses chansons.
Mais non, tu déconnes.
Bien sûr.
Alors
que
là,
oui.
Pourquoi je ne savais pas cette information?
Si, c'est vrai.
Alors
il a chanté
fan.
À partir du deuxième et dans le premier, en fait, c'est du lip sync.
Mais ma question, c'est dans quel karaoké tu traînes? Pour qu'il y ait High School Musical dans les calepins où tu choisis ta chanson.
Ah, mais tu sais, mais le 21e siècle a produit
Serge
des miracles.
Gainsbourg
hein.
Ou
veut des noms.
Bah, moi, ça me choque, mais je crois que j'ai pas été au karaoké depuis trop longtemps.
Il y a un bar à Paris qu'une pote avait réservé pour son anniversaire parce qu'elle a mauvais goût. du coup, dedans, t'avais.
Hello, la pote.
Oui, bonsoir. Il y avait pas Starmania dedans, donc moi, j'étais très énervé et très vieux, encore une fois. Du coup, dedans, il y avait des chansons d'High School Musical et des chansons d'Hamilton, ce qui, pareil, est inchantable et une très mauvaise idée globalement. Enfin. Bref. Du coup, voilà, j'avais fini par chanter High School Musical et j'étais vraiment pas assez bourré pour ce moment. Donc, je me dis, peut-être, pour répondre à ta question, qu'il ne manquait pas d'High School Musical, il manquait d'alcool dans ce.
Et c'est pas mal, effectivement. Mm-hmm. Ok, Sofia.
Alors, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu et j'avoue que High School Musical, c'est une très bonne réponse, mais pour être un peu originale, ou pas, peut-être pas, je ne sais pas, sûrement pas d'ailleurs, ce serait une chanson, je pense, de Daniel Balavoine, genre le chanteur.
Ah.
Voilà, parce que j'adore
Daniel.
Comment ?
Daniel Balavoine, il est né à Alençon, vous le saurez.
C'est
et
vrai,
où, Alençon ?
D'accord.
C'est clair,
merci.
Personne ne le sait. Alors, c'est ton bled.
Kalindi, t'as quand même fait Alençon. Ah, Alençon. Quelle jolie ville.
La province, mais c'est faux.
C'est la ville d'Orelsan, Daniel Balavoine et de moi. On est les trois seules personnes.
Les trois stars de l'Anjou.
Voilà. Okay. Les trois seules personnes à avoir dépassé les 1000 abonnés.
Mais c'est en Normandie.
C'est en Normandie.
Tout à fait.
Voilà.
En basse Normandie.
Ouais, voilà. Donc je pense que je serai effectivement le chanteur de Daniel Balavoine.
Très bien.
Ou alors SOS d'un terrain de trait, je ne sais pas.
Ah, Starmania, on y revient.
Bah oui, voilà. Ouais.
Oui, moi je m'attendais à ça comme réponse pour Mathis.
Ouais.
Mais bon.
C'est vrai.
Imprévisible.
Mais il y a quand même un truc. Alençon, visiblement.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Très bien.
Eh bien, moi, je vais être plus jeune que vous, puisque je vais choisir Somewhere Only We Know de Keane.
Oh, j'adore cette chanson, je l'ai écoutée hier.
Me too.
Est-ce que tu pleures en même temps en fin
Alors,
de soirée quand tu
l'attends? J'ai pas été assez bourrée pour faire ça dans ma vie. Mais je crois que la seule fois où j'ai... Donc, c'est plus pour raconter ma life qu'autre chose. C'est la seule fois où j'ai aimé le karaoké, j'étais... on l'entend ou pas?
Oui, mais c'est pas grave, on
les
fera
pompiers.
Avec.
J'étais en résidence en Angleterre. J'apprenais l'anglais dans le Sussex, je crois. Et j'étais dans une espèce de grosse résidence comme ça, où les riches vivaient dans le château et les pauvres dans le camping en face, donc ce qui était mon cas. Et en fait, on était tous rassemblés, toutes les castes étaient rassemblées le soir pour faire diverses activités, parmi lesquelles, justement, le karaoké. Et j'ai chanté Somewhere Only We Know. Et j'ai eu, sinon une standing ovation, au moins quelques applaudissements. Et mon égo s'en est trouvé flatté.
Deux personnes ont applaudi.
Et en fait, j'ai quand même éprouvé une certaine fierté. Mais moi, il faut savoir que pour aller un peu plus loin dans ta question, j'ai été choriste.
Un point commun.
On en apprend.
Moi aussi.
Ah ouais,
choriste.
Alors moi,
ici.
Mieux, je pense que vous, en fait, parce que...
Moi plus.
Allez-y, battez-vous.
Parce qu'en fait, j'ai fait partie d'une chorale qui s'appelle la chorale des nuits de champagne. Et en
mais
fait,
moi
là,
aussi, tu déconnes.
Arrêtez. Fou de ma gueule.
J'ai chanté avec Trio.
À la même année que ma mère.
Mais non.
Mais non.
C'est pas ce qui se passe.
Mais incroyable, j'étais en seconde poster, mais dingo.
C'est
tu faisais partie des jeunes qui chantaient pour la chorale.
Oui, tout à fait, je faisais partie des jeunes et je faisais d'ailleurs aussi partie d'une chorale qui s'appelle Décibel.
Mais oui, je vois très bien.
Mais tu te fous de ma gueule.
Non, je vois très bien.
Mais c'est incroyable. Incroyable.
C'est fou ce qui se passe, voilà. C'est la année où j'ai joué du champagne, mais bref,
mais Trio, c'était génial, je suis allée voir ma mère. Alors, les nuits de champagne, c'est un festival qui se passe à
Trois. On vient de vivre un moment là.
C'est fou.
Je sais pas si vous vous rendez compte.
Je vais écrire un texto à ma mère après. Je vais te prendre en photo et tout pour te
regarder. Mais elle vient de réaliser qu'elles sont sœurs en fait.
Je viens de réaliser qu'elle disait texto.
Waouh.
Pardon, personne s'est arrêté là-dessus, mais t'as dit je vais envoyer un texto à ma mère. Ah. C'est ça l'information principale de ce podcast.
Personne.
Bah, je suis comme toi, Mathis, une vieille âme.
C'est vrai.
Mais j'ai 30 ans, j'ai au moins ça pour moi. Et donc, et donc les Nuits de Champagne, c'est un festival qui a lieu tous les ans. Tu m'arrêtes si je me trompe, à Troyes. En fait, à chaque année, il y a un artiste super célèbre invité et donc une chorale de 1000 chanteurs derrière pour accompagner les textes qui sont bien sûr arrangés par des chefs de chœur exceptionnels.
Tout
on est d'accord,
fait.
On les adore, je suis amoureuse de tous. Hein, c'est horrible, je flaque à chaque instant. et donc, moi, j'ai fait derrière Véronique Sanson. C'était 4-5 ans avant Trio. Véronique Sanson et Eddie Mitchell, qui est un infâme connard, je vous le dis comme ça.
Bien sûr.
Eddie Mitchell, ça ne surprend personne. Mais ma mère, après, a fait... pas Louis... Putain, j'ai Louis Cornillac. Donc, c'est pas le bon... Louis Furni...
Ah,
non, Louis... Téléphone.
Oui, Louis, voilà, Louis. Machin, okay.
Oui.
Voilà. Armagnac.
Ouais, tu vois, ça, mais... c'est pas ça non plus, mais ça.
Oui.
Mais c'est ce qu'il consomme, sans doute.
Oui,
voilà. Et Trio, j'ai été dans le public, c'était formidable.
C'était génial. Et d'ailleurs, c'était l'année où les L.E.J, comme on dit, se sont fait connaître. Elles se sont fait connaître grâce
à ce
festival.
C'était en quelle année, finalement,
c'était
tout ça?
Alors, 2014. Et après, elles ont fait leur remix 14, 15, 16. Et après, elles ont disparu de la surface de la planète. Et
c'était en 2013, donc, parce que c'était l'année où j'ai eu mon brevet. Voilà.
T'as dit quoi encore?
Je reçois encore des mails.
Ou des textos, peut-être.
Doum, 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 doum. C'était insupportable et à la fois si jouissif. L.E.J. Voilà, c'est donc ma réponse. J'ai aussi participé à ça, donc je suis plus qu'une chanteuse de karaoké, je suis une vraie choriste. Et toi, Marie-Stéphane?
Très franchement,
c'est dur de passer
très
après
franchement, je
dit.
Ouais, c'est compliqué. Et puis en plus, on vient de vivre un moment quand même incroyable. Voilà, de deux personnes qui se retrouvent des années après, qui évoquent des émotions, des sentiments, des événements communs. Donc c'était beau. Merci. Alors effectivement, passer derrière Kalindi.
Non, c'est toujours une épreuve. Mais bon.
Non. En plus, moi, ma chanson de fin de soirée, pas besoin d'être bourré en vrai, mais c'est un peu ma chanson de la honte aussi. C'est Femme de Jean-Luc Lahaye.
Ah bah oui.
Voilà. je l'adore et en même temps j'en peux plus. Et en même temps Jean-Luc Lahaye. Donc
voilà. Jean-Luc Lahaye.
C'est assez problématique.
Après, et pourtant c'est la sienne quoi. C'est chaud. Si même lui Lahaye.
Oh là là.
Non mais il est trop smart pour moi, c'est infernal.
Bonsoir.
Je quitte ce podcast entre Mathis et Kalindi. Je ne pourrais pas.
12 minutes d'enregistrement. Hop, générique.
Non. Fatiguée, elle rage quitta.
I quit. Non, mais c'est vraiment ma chanson du kiff pour le coup.
Bah, je comprends.
Donc ça tombe bien. Mais c'est ma grosse chanson du kiff. Après, j'avoue que je me posais pas trop de questions sur Jean-Luc Lahaye au départ quand j'écoutais et je chantais cette chanson il y a genre 10 ans. Oui, parce que moi aussi, j'ai 30 ans passés. Et puis un jour, je l'ai croisé dans Paris avec derrière lui sur sa moto une
un
fille
enfant.
Qui devait avoir absolument 12 ans. Et là, je me suis dit, mais en fait, il est quand même un petit peu problématique ce mec. Est-ce que je kiffe autant continuer de chanter ses chansons ou pas? Et finalement, oui. Donc voilà.
Je pense qu'on a tous des kiffs un peu qu'on...
Oui, donc c'est un kiff un peu de la honte.
Moi-même, j'ai chanté femme dans les férias, parce que oui, j'ai fait des férias.
Oh là là.
Mon copain me force femme. À faire des férias et il faut pas, on est d'accord.
C'est vraiment
pas
un truc de droite, je pense, en plus.
Merci,
hein, la
super.
Feria.
Faut pas y aller.
En plus, alors au-delà de l'argument politique, c'est quand même l'endroit où on mange les pires piquios de la terre. Et c'est toujours un argument de dire aux gens, voilà, n'allez pas manger les fruits de mer de là-bas qui sont sans doute surgelés, à peine décongelés, ils sont à queue, donc on n'a pas envie de ça.
Ah, ça me donne mal au ventre rien que d'y penser.
Laisse tomber.
Très bien, bah merci beaucoup pour ces réponses qui nous permettent d'en apprendre bien plus sur vous et d'en apprendre même vous-même sur vous-même, les uns les autres.
Tout à fait.
On va maintenant passer aux commentaires.
Absolument.
It's time.
Absolument. Je vois que c'est
Mathis,
à moi de commencer,
pardon. Je pense que c'est toi qui vas en avoir, parce que moi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas été dans mes DM. Ça fait trop longtemps
mes
que
je t'ai mis.
Direct.
Par la poste, j'ai reçu.
Le duc d'Orléans m'envoie ses remerciements suite au dernier bal où j'avais enflammé la scène. Clémentine le Petit m'envoie donc. Hello Mathis, je ne m'appelle pas Mathis, M-A-T-I-2-S-E, Clémentine. Clémentine, oh. C'est déjà le début de ce commentaire. Non, il n'y a pas de souci, je m'appelle Mathis, M-A-T-H-I-S, ce qui n'est pas un beau prénom en soi, donc essayez de l'écrire correctement.
C'est charmant.
Non, ma mère m'a appelé comme ça à cause de Télé Loisirs. C'est une mauvaise anecdote.
On veut l'histoire.
Wow. Ma mère avait lu une présentatrice météo qui disait qu'elle avait accouché d'un enfant. Elle avait eu la mauvaise idée de l'appeler Mathis, comme tout le monde dans les 10 ans qui ont suivi ma naissance. Et elle s'est dit « Ah, mais c'est une bonne idée pour un prénom, pour un petit fion qui ira nulle part. Bah, c'est moi. Hello Mathis. »
Pourquoi la dépréciation permet.
Non, mais ça va, je rigole. Je suis pas un petit fion, je suis un gros fion.
C'est déjà mieux, mais quand même.
C'est vrai. Un petit fion, ça ne va pas loin. Un gros fion, ça va plus.
Loin.
Super. Un premier message pour moi, et vous pourtant j'ai imaginé en envoyer plein d'autres puisque j'écoute LMK depuis ses débuts. J'écoute l'épisode 17 de la saison 6. Oui, donc c'est récent. C'est super de parler du sujet des opiacés, oui, parce que je parlais de Toute la beauté et le sang versé, qui était le documentaire consacré à Nan Golding. Et donc, elle me dit à ce sujet, j'avais vu la série Dopesick, qui explique très bien, le lobbying autour de ce médoc en prenant diverses victimes et qui montre bien que ça touche tout le monde. Par contre, sur Nan Golding, je t'envoie ce post en deux parties qui peut-être peut nuancer le propos. Évidemment, elle a fait un travail fou sur la visibilité des communautés queer, mais certains aspects de son travail sont réellement problématiques et c'était important de le préciser, je le pense. Voilà, comment finir un tel message à part vous remercier encore de m'occuper une heure ou deux durant ma semaine. Et enfin, hi l'équipe d'LMK.
Hi.
Et donc, le post auquel elle fait référence, je vais vous le mettre dans la description, c'est le travail d'une dessinatrice qui s'appelle Cécile C sur Instagram, C-E-C-I-L-C-E-E. Je sais pas épeler les choses, j'ai vraiment du mal à faire ça. Et en effet, du coup, le post résume assez bien le côté un peu ambivalent, parce que du coup, Nan Golding, c'est une photographe à laquelle, en effet, on doit beaucoup sur plein de plans. Enfin, il y a la communauté LGBT, évidemment, qu'elle a mis en avant, et parce qu'elle a vraiment suivi pas mal les marginaux dans un New York des années 80, qui était vraiment ravagé par le sida et tout. Mais elle a aussi pas mal documenté le fait d'être battue par son cum et tout. Donc, elle a traité des sujets très difficiles et aussi beaucoup de sujets de santé mentale et tout. Et en fait, elle a une vie familiale qui est très compliquée. Et sauf que, évidemment, il y a des questions de photographier des enfants quand même très jeunes dans des trucs très sexuels, etc., qui en effet pose question avec le regard contemporain qu'on a aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant d'apporter cet éclairage-là suite à mon kiff où je ne l'avais pas forcément fait parce que je ne savais pas forcément tout ça.
Quel journaliste.
Voilà la rigueur.
C'était très complet.
Je vous en prie.
Comme toujours
tout
avec Mathis.
Tout à fait.
Pour ça, j'arrive pas à tout écouter, c'est trop complet.
Waouh.
Waouh.
Alors que j'en ai pas du blé.
Moi j'ai pas de commentaires, je te dis, ça fait trop longtemps que je suis pas venue. Ça fait au moins 6 semaines depuis, tous mes fans m'ont écrit. C'est trop descendu.
Si tu n'as pas de commentaire, est-ce que tu as un commentaire sur la vie général, en général peut-être.
Écoutez, il m'est arrivé quelque chose de formidable.
Elle attendait que ça.
Pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'allais dans un podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure, n'hésitez pas à l'écouter. Nous ne sommes pas les concurrents de Laisse-moi kiffer, seulement nous complétons les
seulement
équipes.
Placement de produits.
Nos ennemis d'épée, voilà.
Oui, mais on s'apprécie, Le podcast que je co-anime avec Louise Petrouchka, Camille Laurent et Alice Martino. Et alors je me rendais comme ça chez Acast, qui héberge également Laisse-moi kiffer. Et c'est ça, hein.
Oui.
Et donc, je m'y rends, et là, un homme m'interpelle dans la rue. Je me dis, oh, stop, harcèlement de rue, je sais que je suis splendide, mais quand même. Et donc, là, la personne me dit, me parle en anglais et me dit, est-ce que vous savez où est le centre Pompidou? Je lui dis, vous êtes quand même un peu loin. Donc, moi, je vous conseille de reprendre le métro. Voilà. Il me dit, et je lui explique comme ça pendant 5 minutes. Je regarde, parce que moi, j'ai un sens d'orientation comparable à celui d'une poule. Donc, du coup, je regarde un peu sur mon téléphone et je lui indique. Et là, le gars me dit, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Parce que à Paris, déjà, peu de gens parlent anglais. Et aussi, j'ai l'impression que comme j'ai un très fort accent indien, les gens, bon, in fine, étaient en train de me dire que le Parisien était un peu raciste. Bref. Donc, le gars me dit, Mathis, écoute, parce que c'est une super histoire.
Je prépare la suite du podcast.
Et donc, le type me dit... mademoiselle, vous avez une énergie, une aura très violette. Bon, moi qui suis pas dans les énergies, je souffle un petit peu, etc.
Oui, c'est pénible.
C'est pénible, je vais rien demander. Donc là, je continue à marcher, je lui dis au revoir, et là il me suit et il me dit, excusez-moi, est-ce que vous avez une minute? Je suis là, c'est là qu'il va louer ma beauté, encore pas. Et il me dit, écoutez, je ressens quelque chose qui bouillonne dans votre tête. Est-ce que vous pouvez me dire, arrête de souffler, Mathis?
Mais il cherchait pas du tout son chemin, par contre, le monsieur.
Je pense que si,
c'est une connerie.
Spirituellement.
Sans doute. Et donc là, il me dit, un truc qui bouillonne viennent dans votre tête. Est-ce que vous avez une minute? Je vous demande pas d'argent, rien du tout. Je veux juste savoir quelque chose. Est-ce que vous pouvez écrire quel est votre plus gros projet créatif en ce moment?
Waouh!
Sur un bout de papier. Et aussi, je sais.
C'était que... Eric-Antoine, non?
Et aussi, est-ce que je vois que vous avez passé une grosse étape avec un homme dans votre vie. Est-ce que vous pouvez penser très fort à son prénom? Et donc là, j'ai écrit sur le petit bout de papier mon obsession actuelle créative et le nom de mon mec. Non, d'abord, lui, il écrit ce qu'il pense et il me le donne dans la main. Et j'ai ouvert et il y avait écrit « Writing a famous book », ce qui est actuellement ma première ambition.
Pourquoi il écrit en anglais, ce con?
Mais parce qu'il est américain, il vit à Los Angeles.
Ah, parce que son ambition, c'est que le livre soit traduit. Ouais, évidemment.
Non, c'est un américain en fait, il est dans Los Angeles.
Ah, mais ça explique tout.
D'origine indienne. Et.
Je veux savoir la suite.
Et après, il a écrit en dessous AMO, qui sont. Et mon mec s'appelle Amaury.
Mais
et donc pas
c'est
amour.
Un canular. C'est une blague.
Et donc, un fucking croyable. Donc là, j'arrête de respirer, je lui dis, bah oui. Et là, il me donne sa carte où il y a écrit Indian Astrologist.
Non.
Et j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine.
C'est
voilà.
Une blague.
Mais j'adore cette histoire. Incroyable.
Attends, mais le cours de cet épisode vient de changer totalement.
Mais c'est superbe. Par contre, moi, j'ai été happée. C'était superbe. Attends, vraiment. Autant je crois pas trop au truc.
Genre, la vie de ma mère, j'ai le papier. Je l'ai photographié. Je l'ai envoyé à mon mec qui sait pas de quoi je parle parce qu'il a vraiment écrit Writing a famous book et Amo. Tu vois, je dois dire vraiment timbré celle-là. Mais vraiment, c'est la. Et vraiment, le gars dans la rue. Je le voyais en plus en train de chercher à la base. Je passe à côté et ils me disent et l'avenir nous portera ensemble. Si ça se trouve, il va me prédire plein de choses.
Incroyablement bon commercial en tout cas.
Ouais, oh, bah, c'est clair.
C'est clair.
Le mec a fait une démo comme ça. Enfin, je sais pas si t'es kiné. Ouais. Est-ce que t'abordes des gens dans la rue en disant attendez, je vais vous remettre la clavicule. Enfin, c'est
un peu mal au dos.
En plus, non, je lui dis non, mais c'est dingue. Et il était même pas surpris que je trouve ça extraordinaire. Enfin, il était pas surpris de son talent. Je lui dis mais c'est incroyable ce que vous venez de faire. Et il me dit bah vous, votre métier donc c'est d'écrire des livres et puis aussi vous faites quelque chose en rapport avec la radio. Je lui dis oui, j'ai fait des podcasts. Et il me dit bah voilà moi mon métier c'est d'être astrologue et de divin donc
voilà et toi tu fais des podcasts
divin moi, je suis divin
je lis dans la vie des gens écoute c'est comme voilà, ça c'est voilà
hein. Il m'a dit ça avec naturel et tout j'étais là bah je vais vous écrire en fait ça coûte combien je vais même pas demander mais j'étais là en vrai je mettrais n'importe quel prix tu vois.
C'est dingue, incroyable.
Alors ça c'est une vraie question par contre. Est-ce que t'as, parce que du coup qu'est-ce que tu vas lui demander, est-ce que t'as envie de savoir tu vois je sais pas ton avenir?
Bah juste professionnel, le reste je le laisse au destin. Quoi que j'y crois pas énormément, mais voilà, j'ai envie de modeler le reste à ma guise. Et professionnel, j'ai envie d'avoir un petit peu des indices parce que j'avoue que le temps d'incubation de tous les projets que j'ai, c'est long forcément. Et donc un petit coup de pouce de l'univers ou en tout cas de JB comme il s'appelle.
JB.
JB. Ouais, genre un indice, quelle maison d'édition contacter par exemple.
Exactement.
Gallimard.
Gallimard. Mais non, mais c'est incroyable cette histoire. Ah, je sais même plus où j'en étais avec tout ça.
Bon, c'était un petit commentaire.
Voilà, on en était là. Sois fière.
Non, pas de commentaire parce que je ne participe pas de manière assez régulière. Mais écoutez, c'est
mais
pas grave.
Envoyez également, quand est-ce même. Que tu as un commentaire sur la vie. Voilà, est-ce que tu as
un commentaire sur la vie? Non, ma vie est assez monotone ces derniers temps. Trop monotone pour.
Emoji larmes.
Emoji larmes, exactement.
C'est pas vrai, t'es partie en voyage.
Ouais,
j'ai vu
j'allais
récemment.
Dire
tout
la même
fait,
chose.
Mais je le garde. Ouais.
Ah oui, d'accord, pardon.
Ah, d'accord, ok.
Voilà,
juste quand même, Kalindi, t'as checké que le mec te suivait pas sur les réseaux sociaux?
Alors,
oui, ça se trouve, il savait qui t'étais, c'est un homme cradé, il se foutait bien. Là, il est en train d'écouter, il est de ouf.
Mais alors, j'avoue qu'un gars de Los Angeles, d'origine indienne,
mais il ment, il s'appelle Serge Pichard, il habite à Clermont-Ferrand.
T'es trop chiant. Pourquoi vous voulez détruire mes rêves?
Mais non, c'est JB from LA.
From LA.
Qui va la faire rentrer chez Gallimard.
Il fait tout avec deux lettres comme ça, c'est insupportable.
JB.
C'est LA.
Et en plus, il m'a donné son numéro et c'était un numéro américain. Donc, il y a peu de chance.
Ça ne trompe pas.
Ça ne trompe pas.
C'était le 4. Hein? Il t'a donné un numéro.
Très bien.
Tu tires les cartes, tu vas sortir la part, il est fou.
Oh là là.
Voilà.
Non mais c'est incroyable. J'ai incroyable.
Des choses, ça m'énerve.
Donc Sofia, pas de commentaires du coup, si ce n'est
non, pas pour l'instant.
Que ta vie est monotone.
Ma vie est assez monotone en ce moment, mais je m'en porte bien en vrai. Chose que je n'aurais pas pensé dire il y a un an par exemple, ou deux ou trois, enfin bref. Ah. Mais franchement, je suis assez contente que ma vie soit calme. Paisible en fait, pas monotone mais paisible. Ouais. Voilà, c'est le mot. C'est mieux
c'est
choisi,
ça.
Je pense.
Tout à fait.
Comprends.
Voilà.
Ça fait plaisir aussi de temps
ça
en temps.
Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir.
De fou. Très bien. Eh bien, écoute, c'est le moment de passer à vos kiffs.
Allez
yeah. Jingle.
attention, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais, fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure de lâcher vos kiffs.
Et j'ai bien envie de commencer par toi, Sofia, justement, puisque ça a visiblement un lien avec tes vacances.
Tout à fait. Et bien justement, Kalidi, tu parlais de mes vacances. Et bien, c'est mon kiff de cette émission, de cet épisode, peut-on dire. Voilà. Et donc, alors j'ai été récemment à Mayotte, île d'origine de ma maman. De ma maman chérie, si tu passes par là, ça m'étonnerait, mais voilà, je te
Salut
fais quand même
maman,
un
Sofia.
Coucou.
Bon, bisous. Comment elle s'appelle ta maman?
Elle s'appelle Fatima.
Coucou Fatima.
Salut, Fatima. Bonjour Fatima. Et donc, voilà, j'y suis retournée après 2 ans et demi de... Comment on peut dire d'absence.
Mon loyaux, c'est... Ah non, d'absence.
Oui, d'absence, tout à fait. Voilà. Et bah, en fait... Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs personne ne le sait ici, hein, je pense. Ah si, peut-être toi. Mais mes parents habitent à Mayotte et donc je vais les voir de temps en temps. C'était la 8e fois que j'y allais. Voilà, je n'ai pas grandi là-bas, mais mes parents y ont déménagé il y a bientôt 6 ans. Et donc j'y vais de temps en temps afin de voir ma famille et aussi parce que c'est des vacances gratuites ou presque, à part le billet d'avion qui coûte une blinde. Merci Air Austral. Donc,
je peux savoir comment t'as payé le billet d'avion?
Alors là, la période est assez peu chère, mais attention, c'était 800 euros aller-retour, ouais. Ce qui est très cher, mais c'est peu cher pour la période, parce que d'habitude, c'est plus autour des 1000, 1200, ça peut aller jusqu'à 1300, 1400, ouais. Voilà, après ça dépend de à combien de temps à l'avance tu prends ton billet, mais là
c'est pris un très joli chapeau quand même.
Pourquoi un chapeau?
Parce que ça fait partie des trucs un peu fantasques. Voilà, je déteste les gens qui portent des chapeaux, vous le saurez.
Je le savais, j'en ai
bah, bien sûr, bien sûr que j'ai des avis.
Tellement d'opinions.
Qui porte des chapeaux ici?
Personne, j'espère.
Ok, très bien, merci Mathis.
Au mariage, là. Oh.
Je crois vraiment, si tu te maries un jour, je viendrai avec un chapeau.
Un affreux pélican sur ta tête, là.
Ou même si tu fais ton anniversaire, je viendrai avec le pire chapeau.
Ah,
avec
ouf.
Un chapeau un peu Geneviève de Fontenay.
Oh, ouais.
Tu vois, sur le côté, là.
Oh là là,
avec
j'adore.
Une rosace en tulle.
Oh,
je crois que je l'ai jamais dit ici, mais j'ai toujours cru qu'elle était chauve toute mon enfance.
Mais elle est chauve.
Mais,
elle est
non, elle a juste les cheveux laqués en arrière.
Tu l'avais déjà dit.
Ok, c'est bon. C'est réglé.
Ah, mais... Mais tu m'apprends quelque chose, je pensais qu'elle était chauve aussi.
Non, elle n'est pas chauve, elle a juste un chignon, vraiment.
Est-ce que du coup, on a déjà vu Geneviève de Fontenay sans son chapeau?
Je crois
je
pas.
Sais pas.
Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a déjà vu Geneviève de Fontenay et Boy George dans la même pièce? Parce que j'ai l'impression que c'est la même personne.
Peut-être.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Bon, je ne sais pas du tout comment enchaîner.
Du coup, voilà. Donc, Mayotte, prix du billet, cher.
Exactement.
Mais gratuit après.
C'est très cher, mais vu que mes parents y habitent et y ont une maison, eh bien, voilà, je ne paye rien sur place ou quasiment rien. En tout cas, ils payent tout ce qui est alimentation, courses, etc. Après, les activités, c'est moi qui paye, parce que voilà, il ne faut pas déconner non plus, je gagne mon argent à présent. Mais voilà, c'était génial. Et j'y suis allée avec mon cousin qui s'appelle François, qui est un cousin du côté de mon papa et qui
Hi,
est
François.
Donc Hi François,
Hi, François.
Bonsoir. Et qui est donc totalement j'allais dire français, les Maoris sont également français.
François le français, oui, le fameux.
Oui, tout à fait.
Je sais pas pourquoi mais je l'attendais celle-là.
Pardon.
Mais je voulais dire qu'il était blanc, très très blanc, contrairement aux habitants de Mayotte qui sont plutôt noirs. Et donc du coup, il ne connaît pas du tout Mayotte et c'est la première fois qu'il y allait. Et donc j'ai pu redécouvrir, grâce à son œil de nouvel arrivant, mon île. Et c'était super plaisant et du coup j'ai redécouvert mon île comme ça, parce qu'il avait tout son œil de touriste nouveau qui redécouvre tout et c'était génial. Genre, c'est très bête, hein, mais quand on est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est « purée, mais tout est hyper vert !» Parce que, évidemment, c'est un climat qui est hyper tropical là-bas. Et donc, tout est tropical. Je ne sais pas comment dire autrement, mais on dirait qu'il y a la jungle partout, c'est génial. L'eau est turquoise partout, c'est génial, c'est trop trop beau. Bon, le climat, il fait très chaud, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il fait vraiment 30 degrés, 80% d'humidité. 100% du temps à peu près, à part la nuit, mais bon voilà, heureusement, sinon on n'aurait pas de répit. Et c'est une super ville, et je voulais en parler car peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que si d'ailleurs, mais en ce moment à Mayotte, on peut le dire, ça craint, voilà. Je sais, Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Wambushu, qui est une opération qui vise à détruire tous les... Enfin, pas tout, mais en tout cas une partie des bidonvilles de Mayotte, puisque Mayotte est le département français où il y a le plus de bidonvilles. Voilà, c'est un département où il y a énormément de pauvreté, due notamment à l'immigration des îles voisines, qui sont les Comores. Et donc, cette pauvreté fait qu'il y a également beaucoup de violence sur l'île. Enfin, voilà, je sais, tout est un peu lié comme ça. Et donc, on parle beaucoup de Mayotte pour son côté un peu violent, dangereux, etc. Ce qui n'est pas faux, hein, effectivement, c'est vrai. Il faut faire attention quand on y va quand même le soir, etc. Ça, quand il commence à faire nuit, ça craint un peu, voilà. Hein. Je pense qu'on connaît tous là-bas quelqu'un qui s'est déjà fait agresser et ou voler et ou... voilà, enfin... Globalement, ça donne pas envie comme ça, mais je voulais quand même montrer les côtés cool, parce qu'il y a des côtés cool à Mayotte, notamment les gens. Voilà, les gens sont très cool, en tout cas ceux que je connais, parce que j'ai quand même une énorme partie de ma famille qui est là-bas. Les gens sont quand même très cool. L'ambiance n'est pas du tout pareille à Mayotte, et je pense même sur les îles en général, peut-être que tu pourras me le confirmer, Kalindi, ou pas, puisque tu es allée il y a pas longtemps en Guadeloupe, tout à fait.
Ouais, et puis alors... Moi, c'était la première fois que j'allais en Guadeloupe. J'ai trouvé que c'était absolument splendide comme île. Mais moi, au-delà de la Guadeloupe, mon père était de l'île Maurice. Donc, moi, j'ai toute ma famille du côté de mon père qui vit encore sur l'île. J'ai l'impression que les îles m'appellent en permanence. C'est-à-dire que où que je sois dans le monde, j'ai besoin d'être sur un tout petit morceau de terre au milieu de la mer. Et c'est là que je me sens bien. Et je pense qu'in fine, je finirai par vivre à l'île Maurice. Ou pourquoi ils se moquent de moi en permanence ici.
La vieille folle qui écrit des livres sur l'île de Guernesey.
J'adore.
Guernesey, c'est
bien
mon fantasme.
Sûr.
Oh, voilà. Mais oui.
Comment le savais-tu? Guernesey, c'est mon fantasme. C'est pourtant un fantasme très accessible. C'est vraiment la porte à côté.
Oui, mais c'est cher, non?
C'est excessivement cher d'y passer du temps. Les Airbnb sont... Enfin, c'est vraiment, ça coûte les yeux de la tête. Mais bon, on a tous envie, comme Victor Hugo, d'aller écrire en regardant la pluie tomber et l'océan se déchaîner comme ça.
Go life,
tu vois. Exactement. Mais je comprends un petit peu cette histoire des préjugés, etc. C'est très compliqué. Moi, ce que je sais, c'est que l'île Maurice, c'est un endroit que j'aime profondément. C'est vraiment le pays de mon papa. C'est un endroit où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été. Quand j'étais petite, et encore une fois, j'ai toute ma famille du côté de mon papa là-bas, et moi je souffre de... En fait, ce que j'ai trouvé dans la Guadeloupe, ce que j'ai trouvé passionnant là-bas, c'est que j'ai l'impression qu'on a su préserver les littoraux, alors à une certaine échelle, parce qu'évidemment il y a de la sargasse partout, évidemment il y a eu le scandale du chlordécone qui a absolument ruiné toutes les plantations de bananes et ruiné les nappes de manière globale, ce qui fait qu'on a du mal à pouvoir se nourrir de trucs basiques que nous offre la nature, comme des fruits et légumes par exemple. Alors, au-delà de ces scandales sanitaires qui sont infernaux, je trouve que l'île est demeurée très verte et en fait que le tourisme, enfin les structures touristiques n'ont pas ruiné les littoraux versus ce qui se passe chez moi à Maurice, où en fait le tourisme massif a fait qu'on s'est mis à construire des hôtels qui n'ont absolument aucun sens sur tous les littoraux, sur toutes les facettes de l'île, ce qui fait qu'aujourd'hui l'île Maurice est devenue un paradis pour blancs pétés de thunes. tout a été... Quand j'étais petite, il y avait une île splendide qui s'appelle l'île aux cerfs, où il y avait des tortues centenaires, etc. Aujourd'hui, c'est un golf. Donc, tout est devenu insupportable. Et évidemment, comme d'habitude, les populations locales ont été un petit peu rejetées et vivent dans des endroits forcément moins sympas que là où vivent les riches. Les prix ont forcément hyper augmenté, comme en Guadeloupe, où les prix défient toute concurrence. C'est devenu un petit peu insupportable. Donc, je ne sais plus où j'allais avec ça, mais bon, je rebondissais.
Merci.
mais les îles.
Mais tout à fait, les îles, exactement. Je me retrouve vachement dans ce que tu dis parce que, bah, pareil que toi, j'ai. Bon, c'est pas l'île Maurice, mais du coup, c'est pas très loin, en fait, de l'île Maurice, Mayotte. Et ben, j'y ai passé pas mal de temps étant plus jeune. Comme si j'étais vieille aujourd'hui, pas du tout, mais voilà.
Il fut un temps, tout à fait.
Quel choix,
Fia ? J'ai 24 ans, je vais sur mes 25 cette année.
Nous avons le même âge avec Mathis. Je sais pas de quoi il parle.
vraiment, c'est à chaque fois que j'y vais, vraiment, je ressens ce truc un peu d'apaisement. Encore, on revient au fait que ma vie soit paisible, mais c'est vrai que en revenant ici, vraiment, la première chose que j'ai faite, c'est pleurer. C'est-à-dire que vraiment, le lundi où je suis arrivée, Delphine, on l'embrasse également, donc qui est de l'équipe vidéo.
Delphine.
est venu me demander si ça allait, comment j'avais pas, si j'avais passé de bonnes vacances, etc. Et c'était pas trop dur le retour. Et j'ai senti les larmes monter. J'ai commencé à pleurer parce que vraiment, si c'était très dur le retour. Oh, et vraiment.
T'arrives à être encore autant apaisée alors que t'es rentrée il y a 10 jours.
Ben oui, tout à fait. Je pense que c'est un peu la continuité. J'ai, je suis aussi très triste de rentrer, mais quand même apaisée parce que, je sais pas, il y a une espèce d'énergie d'aura là-bas qui est très cool et très...
Et JB te dirait certainement ça. À Paris, j'ai souvent entendu dire qu'à Paris, il y avait justement une énergie hyper négative.
Exactement, ouais.
Te,
je suis assez d'accord.
Un peu te pesait, tu vois, et qu'il y avait vraiment des villes, je sais pas ce que ça vaut scientifiquement, encore une fois, on demandera à JB, mais il y a des villes vraiment qui te... Moi, c'est Lyon, par exemple, qui est ma ville d'origine, mm-hmm. où je me sens hyper... Enfin, je sens une vibe complètement différente, je me sens hyper bien, ouais. Et dès que je rentre à Paris, j'ai l'impression d'avoir un truc qui me pèse sur les épaules d'un coup. Je sais pas d'où ça vient,
ouais, la chape
je sais
de
pas...
plomb de Paris, ouais. Elle existe, je suis d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord aussi.
Et puis, alors, en plus, bon, déjà, ça fout le plomb de rentrer de vacances, mais il y a quelque chose d'autre, oui, qui se joue quand tu rentres d'un pays qui fait partie de toi et qui héberge une partie de ta famille, de ta culture, etc. Se jouent d'autres émotions quand tu dois rentrer. Il y a quelque chose, oui, que tu abandonnes, mais qui persiste en toi, que moi, je ressens en permanence quand je rentre de là-bas. Donc, c'est...
Exactement. Je l'aurais pas dit.
C'est
mieux.
Douloureux.
Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment très douloureux, d'autant que mes parents y habitent, donc c'est difficile parce que je sais que je les vois pas souvent. Bon, après, j'ai la chance parce qu'ils reviennent quand même assez régulièrement en métropole, donc je les vois régulièrement, mais pas aussi régulièrement que s'ils habitaient encore ici. Et donc, bah, c'est vrai que je les vois pas souvent. En plus, je vois pas mon frère. Bon, mon frère, il est en métropole, mais il habite à Nantes et il est étudiant, donc il a jamais le temps de me voir, voilà.
Surtout pas l'argent.
Surtout pas l'argent, effectivement. Donc, c'est plutôt moi qui vais le voir, même si je suis allée le voir une fois depuis qu'il y est. Mais bref.
Après, ton frère, c'est toi avec une coiffure différente.
C'est vrai que mon frère me ressemble énormément.
Ah ouais, vraiment te manquer.
Bah, je vous montrerai une photo après si vous voulez, mais c'est vrai que mon frère, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est jumeaux carrément, alors qu'il a 5 ans de moins que moi. Donc voilà.
Tu fais jeune.
Voilà, tout à fait, je fais jeune, c'est pour ça.
Incroyable. On voudra voir la photo. Hein,
ah, c'est clair.
Ah, mais peut-être oui, même maintenant fait. D'ailleurs, ouais, pour avoir les réactions live.
De ouf. Ah là là, dommage qu'on ne soit
pas en
live.
Comment il s'appelle ton frère ?
Il s'appelle Alexandre, il n'a pas du tout un prénom maoré comme moi, mais bon, écoutez, on peut pas tout.
Oui, t'es la partie fancy.
Je suis la partie un peu fancy, tout à fait, voilà. Ils ont tout mis dans moi, ils ont
moi
pas mis dans
mon prénom Téléloisirs, c'est pas moi qui vais juger.
C'est vrai que ton prénom est Téléloisirs, on en revient au prénom à chaque fois. Hein. Alors oui. Attendez, tu couperas ce moment, hein, j'imagine.
Non, je vais laisser.
Très bien. Alors, trouvons cette photo. En fait, le problème, c'est que je pense que comme beaucoup de gens, j'ai très peu de photos sérieuses de mon frère. J'ai beaucoup de dossiers et donc qui ne sont pas du tout représentatifs de ce à quoi il ressemble dans la réalité.
Même dans tes stories, en vrai.
Oui, dans mes stories, il est pas mal. Attendez, je vais regarder dans mes
archives. Mathis l'a déjà vu, mais nous, ça va vraiment être la première impression. Alors.
Oui.
Dans mes archives de stories, il doit y être. Ah, mais si, je sais, attendez. Sûrement, peut-être... Si, je capte, mais il faut que je remonte parce que je mets beaucoup trop de stories inintéressantes. Ouais. Voilà.
Influenceuse,
tout à fait.
Allez suivre Sofia sur Instagram.
Allez me suivre, Sofia tiré du
bas. Je sais pas quel est ton compte, mais.
c'est Sofia tiré du bas P. Il sera dans la description, évidemment. Mathis.
Non. J'accepte.
Merci.
Alors. Tu recevras plein de messages pour la prochaine fois.
Exactement,
une
exactement.
Photo de ton frère.
Alors, attendez. Oh là là,
t'es
non, je ne trouve pas, mais oui,
bon,
oui.
En fait, c'était vraiment juste toi avec un chignon, quoi.
C'est moi avec les cheveux courts, tout à fait.
Elle
et avec
une
petite moustache et une petite,
c'est clair.
Et une petite barbichette.
C'est toi en drag, en fait. C'est toi en drag king, vraiment.
En drag king, voilà. Mais purée, c'est pas possible de ne pas trouver comme ça, là. En plus, je sais qu'il y a des photos que...
Je sais que j'en
attends,
ai, hein.
Je sais.
C'est pas grave, oui, on y reviendra.
Oui, oui.
On y reviendra. Et en attendant, passons au kiff de...
Le suspense, c'est trop intense.
Oui, Mathis,
ouais. Bonsoir.
Yeah. Allez,
bonsoir.
C'est parti pour 3h30.
Mon kiff n'est pas Kalindi Rumpel. Mon kiff n'est pas le rire de Kalindi Rumpel, le rire méprisant. D'aucuns diraient méprisable. Franchirais-je cette ligne? Oui.
Il est vraiment solo en spectacle, je l'adore.
Ouais, c'est très triste. Contrairement à Edouard Baird, avec beaucoup de monde sur la scène.
Bah, tu as été voir?
Non.
Moi, j'ai été le voir et ça m'a un peu saoulée. Mais bon,
c'est
bref.
Bon, je l'ai trouvé. Je suis pourquoi désolée, je te coupe du coup. Hein.
En fait, super. Le truc, c'est que donc, pour recontextualiser, le nouveau spectacle d'Edouard Baird, c'est un spectacle où il invite plein de gens différents à venir sur scène et ça change un petit peu au gré des semaines. Et en fait, bah, c'est aussi. Donc, les gens qu'il invite, il y a des gens qui ont font des super performances, mais c'est pas toujours le cas. Genre, quand j'ai été, il y avait une enfant de 8 ans qui massacrait Daniel Guichard. Aïe. Est-ce que j'ai envie de passer 4 heures au Théâtre de Paris, écouter une gamine chanter mal mon vieux? Bien sûr que non.
Et tu payes pour ça?
Ah bah oui, j'ai quand même mis un petit peu d'argent dans la pièce. Non, en plus, c'est ma mère qui me l'a offert. D'ailleurs, j'ai vu le prix, maman, cadeau pas si onéreux. Donc...
Waouh.
C'était mon cadeau de Pax, donc je suis là, elle aurait pu mettre plus de thunes. Anyway. Et donc, c'était sympa, mais c'était pas fantastique. Bon, Edouard Baird, je l'aime... J'aime sa verve, mais bon, c'est parfois un peu de l'esbrouf, hein.
Ce n'était donc pas un kiff. Et attends, entre-temps, Sofia, tu nous as trouvé une photo
trouvé,
de ton
j'ai
frère.
Trouvé.
C'est la même personne.
C'est le même gars.
Alors, c'est marrant, mais ouais. Ouais,
attends,
j'allais dire c'est marrant, mais je trouve pas, mais en fait, ouais. Ok. Dru.
Oui, tout à fait. Une photo où on est côte à côte.
C'est vrai qu'il a le sourcil dru, oui.
Ah ouais.
Ton frère, c'est toi mélangé à ce... Comment il s'appelle, Mathis, aide-moi, cet
Gérard
acteur.
Gérard
Jugnot. Je pense qu'il y va
vraiment. Que ton frère ne nous écoute pas.
Cet ancien gars dans Soda. Oui,
Kev Adams.
Non, l'autre.
Slimane.
William Lebgill. Lebgill.
Celui qui joue Slimane.
Oui, waouh.
Oui, ouais.
Vous êtes tellement calé sur Soda.
Je sais pas comment, c'est possible, mais c'est arrivé.
J'étais au théâtre avec un des mecs de Soda récemment et qui n'était pas Kev Adams ni William Lebgill.
C'était l'autre, Ludo. Ah, non, mais là, avec les cheveux bouclés.
Là, moi, je l'aurais pas eu, mais.
Il y a vraiment des connaisseurs de Soda.
C'est vrai. J'assume moyennement, mais.
Parce que finalement, c'est son frère. Ah, mais c'est. Ok.
C'est pour ça.
C'est William.
Vraiment qu'elle connaît.
L'après-midi. Eh ben, je vais lui dire ça ce soir. Je ne sais pas quelle réaction il aura, mais je vous le dirai.
Ah, mais quand tu fais comme ça, là. Avec sa tête de. Ah oui, grave.
Je t'avais jamais vu faire cette expression faciale.
Peut-être d'emoji. D'emoji.
C'est incroyable. T'as le visage barré.
Barré, ben c'est ça. Emoji visage barré.
Oui, tout à fait.
Ok, très bien. Eh bien, ravi, Alex.
Alex, tout à fait.
On peut l'appeler Alex.
Oui, on peut. Okay. Bah, je l'appelle jamais
Alexandre. Nice to meet you, Alexander.
Alexander, tout à fait. Mathis, on a complètement niqué.
Et donc, Mathis, tu étais en train de nous dire.
J'avais un kiff, voilà, je n'en ai plus, je n'ai plus envie. Non, écoutez, j'ai vu énormément de choses incroyables au cinéma et des choses moins incroyables. Mais j'ai vu, voilà, donc j'ai vu 5 films en genre. 2 semaines, même pas. Bon, il y a eu des week-ends de 3 jours et j'ai une carte UGC, il fallait la faire chauffer, donc on y va. Donc j'ai vu Boys Afraid, sur lequel vous avez le fameux épisode du podcast Le Seul Avis Qui Compte, que vous pouvez écouter, puisqu'il sera sorti à l'heure où sort cet épisode, c'est-à-dire que nous sommes en 2025, donc il faudra même remonter un petit peu le flux. Je ne sais plus parler. j'ai également vu un film qui s'appelait Blue Jean et que je vous enjoins à aller voir.
Pardon, j'ai eu Lana Del Rey quand t'as dit ça dans la tête.
Ouais, c'est
ça
clair.
Waouh.
Wow.
Alors que là, c'est vraiment, ça se passe vraiment genre Manchester ou une ville qui y ressemble ou Doncaster, un truc comme ça où ils ont un accent à couper au couteau du cul. Donc c'est bof Lana Del Rey. Mais voilà, très film très chouette sur une relation lesbienne, etc. J'ai vu Disco Boy hier soir et donc j'ai vu 2 autres films et j'hésite entre les deux lequel je vais vous parler. Tatata, pif per pouf. Je ne vous parle pas de Dancing Pina, je vous en parlerai une autre fois, qui est un film sur la chorégraphe Pina Bausch. Je vous parle de Je verrai toujours vos visages. Qui est donc un film super intéressant qui est sorti il y a déjà quelques semaines, donc je pense qu'à l'heure où vous écoutez cet épisode, bah tant pis, vous l'avez loupé.
c'est infernal.
C'est un film avec un casting absolument zinzin, je pense que le budget est conséquent. Assez pour acheter l'île Maurice 3 fois peut-être, parce que dedans vous avez Leila Bekti
pour l'île Maurice,
c'est clair.
non c'est vraiment juste que le casting est zinzin, genre vous avez Leila Bekti, vous avez Fred Testo, vous avez
Adèle
Exarchopoulos, absolument, vous avez
Gilles
Lelouch.
Est-ce qu'on peut arrêter vraiment, c'est vraiment tous les films là.
Oui.
Il y a d'autres acteurs, c'est peut-être.
Bah, c'est clair que toute la bande, là, on les voit quand même.
On en peut plus, là,
beaucoup,
hein, franchement.
On les voit beaucoup. Voilà. Et puis, il y a aussi Miu Miu dedans, qui se trouve être, je crois, la mère de la réalisatrice. Et beaucoup d'actrices de la Comédie Française qui ne sont pas forcément aussi connues, mais qui sont quand même très bons. Oui, Jeanne Herry, c'est la réalisatrice. Alors, attends, je regarde. Non, parce que j'ai cliqué sur France, sur Wikipédia. Je ne suis pas particulièrement intéressée sur les infos sur la France. Je regarde juste les infos sur Jeanne Herry. Oh, alors, vous savez que maintenant,
c'est la fille de Gilles Lelouch.
Non, mais parce qu'il y a Miu Miu, mais vous savez pas qui est son père. Et ça, c'est incroyable.
Jacques Segala.
Julia Claire.
Quoi?
What?
Mais je m'y attendais si peu.
Julia Claire et Miu Miu. Bah, apparemment.
Je suis pas fan de tout ce qui est Nepo Babies, évidemment, mais Julien Clerc.
Julien.
Nom de Dieu.
Julien Clerc, alors je m'attendais pas à cet amour.
Bah,
hein,
ouais.
Derrière les fagots.
Miu Miu Julien Clerc, je sais pas, ils ont dû faire ça derrière une camionnette,
incroyable.
C'était horrible. Un journalisme de qualité. Donc Jeanne Herry signe un film absolument remarquable en vrai, qui est quasi documentaire en fait. Enfin, pas sur le fond, mais dans la réalisation, où en fait elle va suivre un travail de justice restauratrice. Donc le travail de justice réparatrice, pardon, je dis n'importe quoi.
Je t'adore.
Oui, j'adore. Moi aussi, je m'adore. le film, en fait, va suivre le profil de plusieurs personnes qui ont été victimes d'une agression avec violence. Enfin, d'un vol avec violence, je crois, plus précisément. Et de l'autre côté, avoir des gens qui en ont commis. Et donc ça, c'est un peu l'histoire principale. Et en gros, on va avoir des espèces d'animateurs qui vont organiser des cercles de justice réparatrice où ils vont confronter, en fait, ces gens-là autour d'une table avec un bâton de parole au début, etc. Dans un truc qui est un peu alternatif à la justice classique, parce qu'en fait, on se rend compte que la justice classique... elle a énormément de failles et à commencer par une, c'est qu'elle n'est pas forcément faite pour les victimes. C'est-à-dire qu'il y avait ça qui était un truc que je trouvais intéressant dans le documentaire de Mediapart, Guet-apens, dont, que j'ai mentionné la semaine dernière d'ailleurs, et qui parle du coup des agressions homophobes qui parfois conduisent à la mort d'hommes gays. En fait, un rendez-vous amoureux sur le papier, en fait, c'est un piège. Et donc, il y avait une des victimes qui parlait de son procès en disant que c'était un moment horrible parce qu'on avait parlé de tout le passé de l'accusé. Et en fait, on était revenu sur toute son enfance, sur tous les trucs. Il disait, mais moi, personne ne m'a posé aucune question. Mais le problème, c'est qu'en fait, la justice, elle est faite comme ça. Le but, c'est de creuser justement le passé de l'accusé pour savoir quelle peine on met ou on ne met pas. C'est pour mettre tout ça en perspective. Donc, évidemment, la victime, je pense que ce n'est pas nécessairement réparateur un procès, encore que je ne parle pas à la place des personnes. Mais évidemment, je pense qu'il y a une forme de manquement là-dedans et que la justice réparatrice, entend sinon combler, au moins ajouter quelque chose en soutien à ça et qui permet de comprendre, de réparer, d'avancer. Et en fait, donc on a cette histoire principale qui est suivie avec une autre histoire en parallèle où là, pour le coup, les personnes qui gèrent la justice réparatrice sont plutôt dans un rôle de médiation plutôt que d'animation. Où là, en fait, on est vraiment sur du 101 où on va vraiment avoir donc le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui a subi un viol incestueux. Je rajouterai un petit trigger warning, je vais l'enregistrer maintenant. Attention, du coup, dans mon kiff, je vais parler de sujets assez difficiles parce que le film aborde des sujets difficiles. Du coup, si jamais les sujets de viol, les sujets d'inceste, etc. sont sensibles pour vous, n'hésitez pas à passer au kiff suivant. Vous avez tout ça dans les time codes dans le texte d'édition. Voilà, et du coup, je reprends mon kiff. J'en étais où ? Oui, et donc Adèle Exarchopoulos joue le rôle, en fait, d'une fille qui a subi un inceste très jeune, en fait, de la part de son frère. Et du coup, c'est de la confrontation qui s'organise avec les deux. Et en fait, où elle veut juste le rencontrer pour pouvoir en fait s'organiser au quotidien, parce qu'elle sait qu'il est sorti de prison et qu'il va venir vivre dans sa ville. Et dit en fait, je veux le rencontrer, mais je veux pas le rencontrer par hasard. Je veux que ce soit géré, je veux que ce soit cadré par une personne professionnelle qui puisse vraiment gérer les échanges. Et en gros, la médiatrice va avoir un rôle où elle va les voir pendant des mois. Recueillir les demandes des deux côtés, essayer de voir un peu ce qu'ils sont prêts à accepter en termes de conditions, en termes de dialogue, en termes de questions posées, etc., pour que cet échange se passe le mieux possible et y assister in fine et que ça se passe sans violence, que ce soit verbal, physique, etc. Parce que c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Et l'autre partie, du coup, la partie cercle de parole est sur un sujet qui, en apparence, est plus léger, puisque on se dit c'est qu'un vol, c'est que du matériel, sauf qu'en fait, là, on est sur des cas où il y a des violences avec. Donc, le personnage de Miu Miu, typiquement, c'est vraiment la petite mamie qui se baladait avec son sac. Et en fait, on a essayé de lui tirer en scooter et en fait, elle s'y est accrochée, sauf que le mec l'a traîné sur quelques mètres sur le trottoir, il est tombé de son scooter, il l'a roué de coups. Donc on est sur un truc en fait super violent quand même. Et Gilles Lelouch, lui, c'est chez lui qu'il a été braqué, quoi, avec sa fille très jeune. Et Leïla Bekti, de son côté, elle joue le rôle d'une meuf qui, quand elle était caissière, a eu un braquage pareil. Donc en fait, des situations extrêmement diverses. Et tous les trois se retrouvent face à des mecs qui ont été condamnés et qui sont en train de purger leur peine de prison. Avec plein de questions. Et au début, on voit les différentes attitudes des personnages. Il y en a certains qui sont en mode, de toute façon, moi, je suis juste là pour leur faire comprendre que c'est des gros cons et qu'ils méritent pas, qu'ils méritent pas de pardon, etc. Et d'autres qui sont plus dans un truc de, moi, j'aimerais comprendre parce que j'en ai besoin pour avancer. Et donc, on a cet échange, ce dialogue qui est parfois très dur, parfois drôle, en vrai aussi, parce que du coup, c'est évidemment un dialogue qui se fait en plusieurs fois, en plusieurs séances, qui à chaque fois est accompagné, qui a un travail préalable des deux côtés. Et on voit les personnages évoluer là-dedans et on les voit avancer aussi dans leur, euh, bah, dans la façon dont ils vont réparer les choses aussi et comprendre des choses, même sociologiquement, qui font que parfois des gens, bah, on arrive à faire des braquages, etc. Mais avec toute cette question de oui, mais pourquoi telle violence, pourquoi cette violence-là, vous avez été capable de la faire, en quoi tel cas il est différent de tel truc. Et donc, en fait, comme on a plusieurs personnages, j'avais peur de ça aussi, j'avais peur qu'on tombe dans le discours très carcéraliste de ah là là, les méchants délinquants, etc. En plus, j'avais peur d'avoir un truc où globalement tous les personnages racisés seraient du côté des délinquants et tout. Et en fait, c'est plus nuancé que ça et c'est plus compliqué que ça. Et donc, à la fois, tu vas avoir le personnage du délinquant qui est un peu dans le déni et qui est un peu en train de refuser certaines responsabilités en disant oui, mais c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Et ça finit par être pointé. Il y en a un autre qui a l'air plus lucide en apparence, mais quand on creuse, il y a d'autres sujets à creuser, enfin à traiter derrière. Il y a le mec qui est complètement paumé parce qu'il a eu une addiction à la drogue qui est genre maladive, enfin une addiction à la drogue quoi finalement. Et voilà, donc le film va suivre tout ça et c'est très très dur en vrai émotionnellement, mais je trouve qu'on en sort vraiment transformé. On a l'impression d'avoir assisté à une masterclass de communication. Je dis masterclass en rigolant parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Alindy, les gens qui utilisaient le thème masterclass pour parler des films.
Et il me dit ça juste avant que je fasse ma chronique sur Boys Afraid, disponible bien sûr sur les plateformes de podcast dans Le Seul Avis qui Compte, le podcast que j'enregistre toutes les semaines pour mademoiselle.com. Et il me dit ça et je suis là, vraiment je l'ai utilisé dans mon texte. Donc
Pardon, excusez-moi, je crois que je l'ai juste trop entendu. Mais du coup voilà, donc tu sors du film et tu dis... Putain, c'est beau de voir des modèles vertueux de communication qui sont pas genre infaillibles, mais qui en fait te poussent à dire ok, ça aussi c'est possible. Et moi j'ai été voir le film aussi parce que la justice réparatrice c'est un truc qui je pense commence à être connu, mais doucement, et qui pour moi était encore un peu flou. Et je sais que typiquement une créatrice de théâtre, donc Lorraine de Sagazan, dont je vous avais parlé quand je vous avais parlé de la pièce Un Sacre, va traiter bientôt dans une prochaine création avec je crois qu'il y aura encore Guillaume Poix dans la machine, qui est un dramaturge assez intéressant aussi.
Non mais alors attends, Guillaume Poix, j'avais jamais entendu parler de ce gars.
Oui, il est partout
en
ce moment.
Fait 3 semaines que j'entends que parler de lui.
Alix et la Mean Story où elle lisait un de ses trucs.
Mais oui, parce que sa mère
qui
a fait un atelier de
Guillaume Poix,
ben, un auteur et dramaturge français. Ouais. Édité chez voilà.
C'est une édition. Ouais. C'est pas Point. Non, je sais pas.
Non, c'est une édition blanche avec les petits carrés noirs sur la tranche là. Je sais encore pas comment ça s'appelle. Ouais, bon bref. Mais alors, je vois ce type partout. Je suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé là?
Je sais pas. Il est monté d'un coup. Et du coup, il avait contribué à l'écriture de Un Sacre, qui était une pièce qui parlait du deuil. Et comme le théâtre de Lorraine de Sagazan est un théâtre très social, j'ai hâte de la voir s'attaquer justement à cette question de la justice réparatrice. Et donc, en attendant, vous pourrez voir, certainement en VOD, du coup, j'imagine, à l'heure où sortira cet épisode, ce film. Je verrai toujours vos visages. Mais voilà, encore une fois, regardez-le avec prudence. C'est pas un film facile. Mais je pense que c'est nécessaire aussi que ce soit pas un film facile. Il y a certainement des défauts, il y a certainement des choses à redire dessus. Mais je trouvais qu'en tout cas, ça esquissait des pistes de réflexion que je trouve rares au cinéma. Voilà.
Bravo, merci, tu m'as donné envie d'aller le voir.
C'était encore une fois très complet.
Magnifique. Exactement.
Complet. Comment là, on n'a pas de questions à poser derrière ça. C'est pas possible.
Oui, c'est ça. Tout est dit.
C'est pas possible.
Quel bon élève.
Merci.
Qu'est-ce qui parle bien.
Incroyable. Un vrai orateur. Kalindi.
Oui, alors ça va être moins complet, vous le savez, j'ai toujours la moitié des infos. D'ailleurs, j'ai pris 4 notes.
Vraiment.
Je confirme, elle a une feuille avec 4 bullet points.
C'est clair, avec des illustrations, mais alors au poil. J'ai essayé de dessiner un stylo et une caméra. Et alors, j'ai beau avoir passé 6 ans de ma vie avec un illustrateur, ça ne m'a pas servi. Voilà, il m'a donné 2 jours de dessin, de cours de dessin. Un jour, on était à Sao Paulo et manifestement, je n'ai rien retenu.
Je me rappelle du jour où tu avais pris des notes sur un carton de pizza sur un canapé. Je sais pas si tu te souviens de ça.
Oh, j'ai pris mes notes sur toutes sortes de supports. Et car je ne travaille
pas, je vois.
Tu vois, ça c'est
le
un
micro.
Stylo.
Ah, c'est un stylo. Ouais, parce que j'allais dire, c'est pas un micro.
Non, c'est un stylo. Voilà.
Ça va. Non, écoutez, ça va.
C'est quand même moyen. Peu de perspective, peu de volume. Enfin, mon kiff, c'est une série. Je trouve que les séries Apple TV+ sont d'une qualité
qui
ne saurait égaler aucune autre plateforme, en fait. Là où Netflix, en tout cas, vraiment se meurt, même s'il demeure quand même quelques très belles propositions. On rappellera que c'est encore l'endroit où survit Mike Flanagan et c'est vraiment mon créateur de séries préférées. Donc voilà, il y a quand même de très belles choses et je déteste les gens qui font que taper sur Netflix parce que c'est très c'est un peu fastoche de taper sur Netflix quand Netflix c'est quand même héberger pas mal de jolies choses. Mais alors Apple TV+, je trouve que c'est vraiment the endroit où tu peux trouver des propositions qui sont différentes de ce qu'on trouve par ailleurs, Apple TV+ fait le choix de produire moins de séries que les autres plateformes, mais de ne donner que dans la qualité. Et donc, notamment, Jennifer Lawrence a choisi de faire son grand retour à l'écran avec une série qui s'appelle Cause Away, que j'ai toujours pas vue, mais que je vais regarder ce soir. Car mon Mac n'étant pas là, je vais enfin pouvoir... regardez
une autre version de cette phrase série. Tout à l'heure,
ainsi que m'a donné au plaisir personnel divers et variés. Et, et donc sur cette plateforme j'ai vu deux séries, mais je parlerai d'une, alors une exceptionnelle que je vous conseille mais j'en parlerai plus tard, qui s'appelle Pachinko, une série sud-coréenne exceptionnelle du cul, vraiment incroyable.
Et du la cul, deuxième carrément.
Dont du cul, ouais. Et la deuxième dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a été une grosse surprise, qui a été écrite et réalisée par des femmes, qui est adaptée d'un roman écrit par une femme, et je vous citerai leur nom après parce que j'ai pris des notes en tant que journaliste. Ça s'appelle The Essex Serpent, et c'est c'est Anna Simon au scénario et Clio. Attendez, j'ai du mal à m'en lire moi-même. Et Clio Barnard à la réalisation. Et c'est adapté du roman éponyme de Sarah Perry. Et donc, The Essex Serpent, ça se passe au... J'ai toujours du mal avec les siècles. 18... Au 20e siècle. Début 20e siècle. Ça commence à Londres, où on rencontre le personnage incarné par Claire Danes, dont vous vous rappelez, c'était elle qui jouait dans Homeland. Et Claire Danes, qui a une couleur de cheveux absolument improbable. Vraiment, je veux pas juger le look des gens, mais pourquoi on lui a dit OK pour ce orange saugrenu alors qu'on est début 20e? J'ai pas compris. Donc c'est Claire Danes qui est une femme qui a été abusée par son mari qui vient de décéder, et donc elle n'éprouve aucune tristesse pour la mort de son mari, on la comprend. Elle est donc veuve et elle vit avec son petit garçon. Et en fait, elle n'a pas de travail. Et on attend d'elle que, bien sûr, elle n'ait pas de travail, vu que c'est une femme du XXe siècle.
Bien sûr.
Donc, on attend d'elle qu'elle élève son petit garçon en jouissant des biens et de l'argent dont elle a hérité de feu son mari. Et en fait... ce personnage, joué par Claire Danes, dont j'ai oublié le nom, Cora. Cora, elle a une passion, c'est la naturologie comment on appelle ça, les petits coquillages, la paléontologie.
Les petits coquillages.
Comment on appelle ça déjà?
Comment t'as répondu direct, paléontologie?
Les fossiles.
Ouais.
Waouh.
C'est pourquoi Mathis, il a direct compris que tu parlais de ça.
Parce que Mathis a l'habitude de
travailler avec les coquillages.
C'est terrible.
Mathis a l'habitude de travailler avec moi et sait que je n'utilise pas les bons mots. Et donc, Cora, elle aime la paléontologie. Et en fait, elle entend parler d'une histoire qui anime les sexes en ce moment, qui est que dans cette région un petit peu reculée de l'Angleterre, il y aurait un serpent d'eau, un petit peu comme le Loch Ness, quoi, qui tuerait des jeunes filles qui se risqueraient près de l'eau quand la nuit tombe, ou même en plein jour. Enfin, je me souviens plus vraiment. Il y a déjà deux semaines.
Allez lire le synopsis.
Non, mais c'était il y a deux semaines. J'ai vu 1000 trucs entre temps. Bon, alors voilà. Et donc, Cora décide de faire fi des candidatons et de se rendre dans les sexes avec son petit garçon pour aller enquêter sur ce serpent maléfique qui tue des jeunes femmes. Et là-bas, elle va rencontrer Tom Hiddleston.
Tom.
Je veux objectifier personne, mais Tom Hiddleston quand même. Et donc, Tom Hiddleston est une espèce de pasteur que je qualifierais d'assez libéral, d'assez progressiste. Et en fait, lui, il est marié à une femme qui est Clémence Poésie. Et alors, je ne comprends pas comment ils n'ont pas joué avec dans le scénario. Et du coup, pourquoi ils ont pris Clémence Poésie? Parce que c'est quand même le sosie de Claire Danes. Donc, au début, je me suis dit, il va y avoir un truc super chelou qui va s'instaurer. En fait, peut-être elles sont sœurs. Bon, j'en sais rien. Et donc, le pasteur vit avec cette femme, Clémence Poésie, qui est 100% des personnages de Clémence Poésie. Donc, la douceur et la pureté incarnée, elle permet tout, elle est gentille avec tout le monde. Et voilà, Clémence Poésie, fleur de beau bâton, exactement. C'est toujours le même rôle qu'elle joue depuis 20 ans au cinéma, mais on l'adore. J'adore sa dentition aussi, j'aime tout chez elle. Et donc, il s'avère que, du coup, Cora va habiter quelque temps chez ce pasteur qui est marié à Clémence Poésie. Et ils vont discuter de littérature, ils vont discuter de paléontologie, ils vont se rendre compte qu'ils ont plein de points communs.
De coquillages.
Et. Très étonnamment, alors moi j'aime pas les romances, ça me casse les couilles globalement, je choisis pas des séries parce que ou des films, je me dis ouais, une super comédie romantique, ça me casse les ovaires la plupart du temps. Mais là, j'ai eu la belle surprise d'assister à un tournant dans l'histoire auquel je ne m'attendais pas, C'est-à-dire que ce qui est vendu au départ comme une série de genre, surtout quand on regarde, quand on lit le synopsis et ensuite quand on regarde la bande-annonce, s'infiltre tranquillement du côté de la romance contrariée, de la pluralité des amours, parce qu'en fait, c'est donc Cora va tomber amoureuse de cet homme qui est aussi amoureux d'elle, mais aussi, oui, ça se dit, mais aussi de sa femme qui va se mourir, qui va mourir en tout cas.
Paléontologie, qui... dans le doute.
qui va tranquillement expirer, on va dire. Et donc, en fait, l'histoire, si les trois premiers épisodes nous emmènent très naturellement sur la piste du thriller et du thriller de genre, dans les derniers épisodes, parce que c'est une mini-série en 6 épisodes, les trois derniers épisodes vont vraiment s'insérer du côté de la romance. Mais absolument bouleversant, vraiment, j'en ai chialé. Évidemment, vous vous en doutez, cette histoire de mythe autour du serpent, je veux rien vous spoiler, mais c'est en réalité une série sur la xénophobie, sur l'obscurantisme, sur ce que la religion, quand elle est mal comprise et qu'elle peut être prétexte à tous les racontars et à toutes les fables les plus extravagantes qui, évidemment, finissent toujours par incriminer les femmes, les traiter de sorcières. C'est une très belle série, très délicate au dialogue, mais ciselé, que j'ai dévoré en une journée, qui m'a fait passer par toutes les émotions. D'abord, j'ai eu peur. Ensuite, j'ai été amoureuse de Tom Hiddleston, mais bon, ça, c'était pas nouveau. Et ensuite, j'ai pleuré parce que j'ai trouvé la fin d'une délicatesse infinie. Et j'adore le prétexte de la monstruosité quand il s'agit, en fait, de raconter de vrais tares sociétales in fine. Donc voilà, vraiment, The Essex Serpent de Anna Simon est réalisé par Clio Barnard sur une adaptation du bouquin de Sarah Perry. Je vous le conseille si vous avez Apple TV+. Et d'ailleurs, si je n'avais qu'une seule plateforme à vous conseiller, ce serait vraiment celle-ci, parce qu'on ne citera jamais assez Ted Lasso, Severance et, oui, autres Servant, qui sont pour moi franchement parmi les meilleurs programmes qui existent en VOD. Voilà.
C'était bien.
Incroyable, tu m'as vraiment beaucoup donné envie.
Bah, je vous en prie, de la voir. Vraiment, allez-y, c'est une petite merveille, franchement.
C'est quoi le nom, redit déjà ?
The Essex Serpent.
Trop bien.
Le serpent d'Essex.
Le serpent d'Essex, c'est ça.
Exactement.
Très bien, très bien. C'est important.
That was gorgeous.
Incroyable. Très, très envie de la regarder maintenant. Après, moi, j'ai un problème avec les séries, c'est que je m'empêche de les regarder parce que je sais que si je kiffe, tu vois, dès le premier ou le deuxième épisode, bah après, il faut que je les regarde tous d'affilée, que je les binge et c'est fini, quoi. Tu sais que tu te condamnes pour
oui,
X heures et c'est là genre, non, putain,
c'est
pas
vrai.
Le temps, quoi.
Mais c'est là la beauté des mini-séries, c'est-à-dire que là, franchement, en un dimanche après-midi, c'est plié. Tu vois, de 14h à 20h, tu ne fais que ça et c'est réglé.
Et en plus, on a plein de week-ends fériés en ce moment, donc c'est parfait.
Exactement.
De week-ends fériés, enfin, de longs week-ends, que dis-je.
Faut juste attendre.
Mais toi, t'as un enfant en bas âge.
Ouais, moi, c'est compliqué, 14h, 20h. Non, j'allais dire je pourrais, mais non, je peux pas.
Ouais.
Même si elle fait des longues siestes et qu'elle joue toute seule.
Elle a quel âge ta fille là ?
Elle va avoir 2 ans.
Oh ah oui, donc c'est encore baby.
Ouais.
Elle a pas son bac ?
Si. Elle est très en avance. Et bien évidemment, mention. Elle est HPI. Comme ce que disent absolument la plupart de.
Les enfants qui grandissent à Paris, c'est quelque chose.
Voilà, les enfants sont tous. Moi, dans ma crèche, ils sont tous HPI, les enfants. Ils sont tous HPI. Puis quand tu les vois, tu te dis, non, en fait, non. On est vraiment biaisés, quoi.
En train de manger les barreaux du truc. Là.
Après, c'est aussi le cas de tous les podcasteurs trentenaires parisiens, vraiment.
Oui,
tous
vraiment.
S'auto-diagnostiquent HPI, donc.
Oui. C'est un peu ça.
Alors qu'ils sont juste podcasteurs.
Exactement.
Finalement, on est un peu tous HPI, là, autour de la table.
Évidemment,
hein,
tout à fait.
Zèbres. Ah oui, les zèbres aussi. Très bien, très bien. Et bien, pour terminer, mon kiff, c'est ce magazine que vous connaissez peut-être.
Oui.
Non.
La déferlante. Ah, vous ne connaissez pas.
C'est vrai, non,
attendez, est-ce que
pas.
Tout le monde connaît ?
Je ne connais pas du tout.
C'est
non,
vrai
je ne lis pas la presse.
Ah, je ne lis pas la presse. Désolée. Je ne lis même pas mademoiselle.com. Très bien,
bah,
merci.
Je lis pas l'article en tout cas, c'est une habitude.
Est-ce que tu veux le voir quand même ?
Non, mais c'est super, j'adore l'illustration,
alors,
c'est cool.
C'est un magazine qui s'appelle La Déferlante, qui a été lancé il y a un peu plus d'un an maintenant.
Ça commence à un an et
demi
au moins.
J'ai pas la date tout à fait précise, mais donc c'est un magazine papier, une revue papier trimestrielle féministe. Qui s'inscrit dans une vague un peu plus générale d'éclosion, j'ai envie de dire, de magazines féministes qui voient le jour là ces 2, 3, 4 dernières années. Je pense notamment à Censored, que vous connaissez peut-être aussi, qui a été fondée par deux sœurs, Pareil, qui est un magazine qui se veut plus comme un recueil d'archives des féminismes. Je pense aussi à Gaze, qui est un magazine plus sur le regard féminin, avec beaucoup de textes, mais aussi beaucoup de photos. Voilà, c'est les trois principaux auxquels je pense. Et donc, il y a La Déferlante, qui est, donc, comme je le disais, un trimestriel dont l'accroche est la revue des révolutions féministes. Donc, chaque numéro, il y a un trimestriel et une newsletter qui sort toutes les deux semaines. Dans chaque numéro, en fait, il y a un gros dossier. Donc là, en l'occurrence, sur celui de mai, puisque nous sommes en mai, et c'est le numéro 10, le dossier, c'est « Danser ». C'est toujours un dossier, c'est danser, manger, penser. Et là, c'est danser l'émancipation en mouvement. Pourquoi c'est mon kiff ? Parce que déjà, j'adore absolument tout, tout ce qui est en lien avec le papier, que ce soit les magazines, les bouquins. Enfin, littéralement, je suis passée...
Et la papeterie.
Et la papeterie. Mais
j'adore la papeterie.
Non, mais vraiment, c'est un kiff. Moi, je pense que c'est peut-être pareil pour vous, mais je suis capable d'aller en librairie ou dans un kiosque, d'acheter 20 magazines, 20 bouquins. Je sais que je ne vais pas tous les lire qui vont rester sur ma pile. Mais je kiffe. Je les prends, je les sens comme ça, parce que c'est un critère aussi.
Vraiment, c'est clair.
Et là, ils sont quand même particulièrement bons.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas c'est du papier mat, c'est pas magazine brillant.
Oui, voilà.
Du coup, t'as l'odeur tout de suite du papier mat et un peu épais, là, miam miam.
Ouais, exactement, miam miam. Miam, miam. Ah, c'est exactement ça. Et effectivement, c'est plutôt un bel objet. Donc en plus, c'est un magazine qui a été fondé par des femmes. Qui est écrit par des femmes, illustré par des femmes, parce qu'à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent, c'est des très belles illustrations à l'intérieur de la revue. Pareil, il y a des... là, je dis ça, mais j'en vois pas. Enfin, il y a des illustrations assez chouettes. Il y a même des petites BD au début. Là, en l'occurrence, c'est une BD sur les folles aventures de Marie Évangeline.
C'est souvent ça.
C'est tout le temps, ouais, ça, je crois, d'ailleurs.
Il me semble qu'à chaque fois, il commence par ça.
Ouais, ouais. Où j'en étais. Et à chaque fois, c'est vraiment des sujets extrêmement fouillés sur le genre, sur les féminismes, écrits par des plumes très, très brillantes. On a déjà lu du Pauline Verdusier dedans, que vous connaissez peut-être, qui écrit sur les sexualités. Donc voilà.
Même moi, ça me donne envie. Moi qui ne lis vraiment jamais la presse papier.
Eh bien, écoute,
franchement.
Alors, non, c'est vraiment génial. Moi, ce que je trouve chouette, en fait, c'est que aujourd'hui, quand même, la presse papier, c'est pas ça. Enfin, voire pas du tout ça. On voit qu'il y a quand même des magazines qui arrivent à se lancer, qui arrivent à se financer sans pub. Parce que c'est aussi indépendant. Mais
alors, c'est quoi ces putains de financements ? Je comprends pas comment ça marche, en fait.
C'est cher. Oui.
C'est-à-dire que tu vas payer ton magazine. Alors là, on nous l'a gentiment envoyé. Merci beaucoup. D'ailleurs, 19 euros. Donc, 19 euros, c'est quand même pas donné. C'est un trimestriel et c'est quand même un objet que tu vas... Tu vois, c'est pas genre... t'achètes ton Society et tu le jettes... moi, j'ai juste gardé ceux sur Xavier Dupont de Ligonnès parce que c'était des collecteurs.
Passion.
Mais clairement, tu les jettes, sinon tu les fous à la poubelle. Ouais. Eux, t'as pas trop envie de les jeter parce que c'est vraiment des beaux objets et que par ailleurs, tu peux y revenir. Ouais. C'est des papiers froids. Là, par exemple, il y a une grosse enquête sur l'inceste commis par des mineurs. Donc, bon, c'est pas très joyeux, mais c'est hyper intéressant.
Je vous invite d'ailleurs, on mettra les liens dans les notes de ce podcast. Esther Reporter, qui est une ancienne de chez Mademoiselle, avait fait toute une enquête et publié des papiers assez conséquents sur les agressions sexuelles entre enfants. Voilà, encore un sujet des plus joyeux, mais donc vous pouvez aller lire un travail un peu dans les mêmes thématiques sur mademoiselle.com.
Mais voilà, exactement, merci Kalindi de le repréciser.
Je suis une vieille ici.
Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc on n'a pas envie de le jeter. Puis on le paye 19 euros. Et après, donc c'est abonnement. En fait, ça peut fonctionner sur abonnement. Soit tu achètes ton numéro, soit tu t'abonnes. Et je pense que peut-être, certainement, il fonctionne aussi avec des dons. Elle fonctionne aussi avec des dons. J'en ai aucune idée. Je m'avance peut-être totalement. Mais voilà, en tout cas, c'est complètement indépendant. Et oui, quand on sait aussi le prix du papier... en ce moment et tout le temps, enfin, on sait que voilà, c'est 19 euros, c'est pas non plus enfin c'est pas 19 euros dont 17 pas. Qui vont dans leur poche à elles quoi.
Ouais c'est ça. D'autant plus que là c'est très illustré donc il faut payer les illustratrices etc. C'est quand même.
Il faut payer les illustratrices. Dessus, il y a pas mal de monde. Ouais il y a pas mal de monde chez. Enfin.
C'est pas 4 personnes par magazine quoi. De mon souvenir c'était pas mal de plumes. Hein.
Ah ouais il y en a vraiment beaucoup. Enfin je crois que chaque papier limite a une plume différente. Ouais. Donc voilà, il y a un focus sur À quand un MeToo dans la bande dessinée que je n'ai pas encore lu de Marie Kirschen, que j'ai très très hâte de lire aussi. Pour une politique féministe du travail, une chronique de Manon Garcia. Enfin, bref, c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc je vous invite à aller le découvrir. Et voilà, et puis c'est surtout très chouette parce que c'est une presse féministe qui se développe et qui porte des messages que la presse plus classique ne porte pas sur un format qui est quand même assez chouette à lire quand on aime le papier, quand on aime les beaux objets. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, La Déferlante. Elles ont un compte Instagram aussi. Donc si vous connaissez pas, filez La Déferlante. Puis j'ai dit aussi Censored et Gaze.
Censored, c'était pas le magazine où travaillait Paola, qui est notre ancienne stagiaire, c'est
ouais,
ça
ouais, Paola y a travaillé un temps, ouais.
Oui, je me rappelle. C'est magnifique aussi.
Oui, c'est des beaux objets.
Très beau,
très,
hein.
Très, très, très bel objet.
Très épais.
Et je l'ai, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai complètement oublié de le dire, mais La Déferlante et Censored ont chacune lancé des maisons d'édition aussi. Par exemple...
je vais tout de suite m'abonner. Merci de m'éditer un jour, pitié.
Si vous nous entendez.
C'est plutôt des essais du côté de
c'est
La
plutôt,
Déferlante.
C'est plutôt, ouais. Oh, je sais pas si...
Mais le roman, c'est être féministe également, mais... merde.
Mais je vais vraiment te demander ce que tu veux écrire après hors micro, Kalindi, puisque ça m'intéresse.
Ah bah
pour
avec
le
plaisir. Excusez-moi,
j'ai des contacts.
Merci
Marie-Charles, dit comme ça. Non, mais c'est vrai. J'ai publié un bouquin dans une et je vais publier un deuxième bouquin dans une maison d'édition géniale.
Félicitations.
J'en profite pour citer ici. Je sais pas non.
Ce premier livre, il faut que je le lise absolument. Je vais le commander là maintenant.
Ah, mais c'est
tu peux nous
gentil.
Dire ce que c'est, même au micro.
Écoute, ça s'appelle Femme d'art.
Ok.
Alors, le premier, c'est un recueil.
C'est sur Instagram.
Exactement. C'est un recueil d'entretiens avec des femmes du monde de l'art, donc des artistes, des galeristes, des historiennes, des commissaires d'expo. Et le fil rouge entre tous ces entretiens, c'est la place des femmes dans le monde de l'art à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Parce que, au cas où vous ne le saviez pas, mais on en a parlé dans mon kiff du dernier LMK, les femmes ont très longtemps été invisibilisées du monde de l'art, puisque jusqu'en 1902 ou 3, elles n'avaient pas accès tout simplement aux écoles d'art. Et quand elles y ont eu accès, on attendait d'elles qu'elles se distraient le temps qu'elles trouvent un mari. Et bref, et c'était hyper intéressant de rencontrer toutes ces femmes pour à la fois avoir le point de vue historique et aussi à la fois se poser la question de qu'est-ce que les mouvements féministes des années 60-70 ont apporté à la place des femmes dans l'art et aujourd'hui, qu'en est-il ? Est-ce que il y a plus de sujets comme ce que beaucoup peuvent dire ? Bah non, les femmes sont très très acceptées, très bien représentées et non, c'est faux. Puisque y a très peu de femmes qui sont vendues à des prix aussi énormes que les artistes les plus connus aujourd'hui, que sur les plus grosses galeries qui trustent le marché, 9 artistes sur 10 sont des hommes, voire parfois il n'y a tout simplement pas de femmes. Et il y a encore très peu de femmes dans les musées, même si ça s'améliore en tant qu'artistes. En revanche, elles sont extrêmement présentes en tant que sujet, en tant qu'objet. Et ce qui donne lieu à pas mal de déconstruction aujourd'hui de la part de plein de super personnes, chercheurs, chercheuses, autrices, historiennes, qui déconstruisent la façon dont on a représenté les femmes dans les musées pendant des siècles, finalement. Voilà.
J'en profite juste pour conseiller le travail d'une vidéaste que vous connaissez sans doute qui s'appelle Manon Bril.
Oui.
Et qui cartonne sur YouTube et qui reprend un peu ses formats sur Instagram et qui notamment met en lumière les femmes qui se sont fait piquer leur travail par leur époux et donc les femmes artistes ont été très ont été vachement les victimes de beaucoup de leurs maris qui leur ont piqué je crois que c'était le cas de Rodin enfin de beaucoup de gros types
comme dans Big Eyes.
Comme dans Big Eyes, qui est un très mauvais film,
très mauvais
mais
film.
Un très bon sujet. Un film. de notre ami Tim Burton, qui n'a pas fait que des merveilles filmiques, mais bon.
Surtout ces dernières décennies.
C'est clair.
Mais trop intéressant, ouais. J'irai regarder ses vidéos.
Ouais.
Donc voilà, et le deuxième, c'est un énorme teasing, parce qu'il est prévu quand même pour octobre 2024. Et c'est une BD que, du coup, j'écris avec une dessinatrice qui s'appelle Sophie Lambda, que vous connaissez peut-être. Je la recommanderais dans un kiff d'ailleurs.
Qui porte mal son nom de famille.
Elle, c'est un pseudonyme.
Ah oui, d'accord.
Donc ça va. Mais Sophie, personne. Finalement. Mais voilà. Et si je tease un peu plus, ce sera des portraits de d'artistes connus ou moins. Mais tout ça pour dire que je suis éditée par une maison d'édition génialissime qui s'appelle tout simplement les éditions Le Duc.
Ah mais c'est Le Duc, ah oui, ouais. Oui, mais qui font que de la BD.
Ils font pas que de la BD, ils font vraiment, ils font tout. Ils font
tout. Mais je croyais que c'était parce
des
manuels
pratiques,
le pendant.
Des essais, des... Ouais.
Moi je suis que sur de la fiction du roman, donc c'est compliqué pour moi. Mais Le Duc c'est super, j'en profite pour conseiller... La BD d'une copine à moi qui vient de sortir, une copine qui s'appelle Marie de Breuer et qui s'appelle Ne jamais couler.
Ne jamais couler. Ouais, elle est super.
Donc, ouais, c'est très bien.
Ouais, elle est vraiment super. Voilà pourquoi on en était là.
C'est le podcast de la diversion finalement.
Ah bah oui.
J'ai aucune idée de pourquoi on en était là, mais c'était pour dire que la Déferlante avait lancé une maison d'édition qui s'appelle La Déferlante Édition, je crois, et ils viennent d'éditer exactement.
Elle
Elles viennent d'éditer
le nom est évident, c'est bien.
Le livre de Tal Madesta dont je n'ai plus le nom mais que nous avons chroniqué
La chute
par
des
deux fois.
Non, la fin des monstres.
La fin des monstres, voilà, exactement.
Ah bah 100%. Je suis dessus, c'est marrant.
100% des infos.
T'es dessus.
Ah bah j'ai ouvert, je tombe dessus.
Genre sur la t'es sur le livre.
Je suis dans le livre. Je devrais en tout cas.
Non, vu le sujet, non.
Et Sensord a lancé, pareil, une maison d'édition dont j'ai plus le nom. Et là, elles sont en train d'éditer un livre à paraître de Costanza Spina. Et je sais plus quel est le sujet. Vraiment, t'es pas du tout préparé. Voilà, mais je vous recommande d'aller voir tout ça. Et je crois que nous arrivons à bout de ce podcast. J'ai aucune idée, pareil, de l'heure qu'il est.
18h10.
Ça fait un petit bout de temps, ouais.
Voilà.
Il commence à faire très chaud dans cette salle. Je n'en peux plus.
Il fait très chaud. Swafia a fait tomber
la chemise.
C'est clair. Elle s'est mise au frais. J'étais vraiment ravie de faire cet épisode avec vous.
C'est le premier épisode de cette septième saison, c'est
absolument.
Ça
oui.
Wow. Putain, c'est vrai que vous avez découpé ça en saison. Il a dû avoir un taf, un super taf.
Demande à Mathis. Hein,
C'est pas totalement fini. Il est possible que certains épisodes doivent encore être édités.
La première règle au travail, c'est ne pas dire ce genre de choses devant ta... C'est vraiment la règle number one.
Mais t'as
toujours
vu,
avoir l'air d'avoir fait ton travail.
J'ai pas réagi parce que je me suis dit ça va mal tourner après là. Ça va mal tourner.
Là je travaille plus ici techniquement, il est 18h12.
Non Mathis, t'as des trucs à terminer là.
Libre.
Non, sincèrement, j'espère que vous aussi qui nous écoutez, qui nous avez écouté, avez apprécié cet épisode. Et comment on conclut un LMK?
Touchez-vous bien le kikif.
Allez, on peut reprendre une des parties. Et en attendant la semaine prochaine,
oui.
Touchez-vous bien le kikif.
C'était magnifique.